fraternité. Liberté. Les logiciels respectent la liberté.
Bon, et bien voici un générique qui ne s'est pas bien lancé, bizarrement. Et vous entendez Tari Rock dans l'émission de Source sur Radio Campus Nantes 2.1. Et avec moi, plein de gens.
Oui, coucou, dites chez vous et chez vous tous et chez vous toutes.
Bonjour Félix.
Hello.
Bonjour Thiers.
Salut.
Bonjour Ageo.
On inverse les rôles.
Bonjour Nico.
Salut.
Comment vous allez en cette belle journée?
C'est bientôt le printemps, ça se sent déjà. Non, ça va, ça va.
Un peu frais.
Ouais. Mais écoute, ça bourgeonne partout. On a des pousses de tomates en route. On a de l'ail. C'est navillant. Non, tout ça.
Belle lumière.
Tout ça est très bon présage, ouais. Quelle belle lumière. Bien. Joli sens de l'observation, ça, Nico. T'es à la fenêtre, justement.
Belle lumière rouge, hein, je veux dire, au centre de la table.
Ok.
Oui, j'essaie de dépatouiller ce qui était censé lancer le générique, parce que là, on n'aura plus du tout de musique. Ah, ça oui. Va aller, ça va.
Ah, ok, on meuble.
Alors, nous avons aussi un bout de Connecticut à avoir dans notre super salon framatalk.org/source.
Framato ou Mumble?
Qu'avions-nous mis au point avec Simon Descarpentriers pour discuter réellement avec lui aujourd'hui?
Alors, dernière fois, c'était un Mumble.
C'était Mumble? Ah, et voilà, gardons Mumble.
Donc, le Mumble va bientôt apparaître.
Pour rappel, tout ça, ça se trouve sur src.brussels. Il y a des icônes hein, sur la droite avec le compte Mastodon, le lien vers le Mumble. Les rediffusions, elles n'y sont pas toutes, mais il y en a quand même quelques-unes. Et il y a deux nouveaux icônes aujourd'hui. Il y a de quoi faire un nouveau pad avec un autre outil libre, EdgeDoc. Etherpad, je ne sais pas pour ceux et celles qui connaissaient, c'est un déjà assez vieux outil qui permet de faire de la collaboration en ligne et d'écrire des textes à plusieurs tant qu'on garde une URL comme ça dans son bookmark.
Et c'est pas limité
dans son marque-page, pardon.
Alors, elle n'est pas limitée dans le temps. Il y a certains pads, on peut lui dire qu'on le prend pour un mois, deux mois.
Ça, par exemple, c'est ce que faisait Framapad, où il proposait différentes instances avec des durées de vie différentes. Mais on peut tout à fait installer Etherpad et n'avoir aucune limite dans le temps.
Ouah Magicum.
Donc, ici, nous avons un nouvel outil qui fait le même genre de mécanisme. Offrir des URL derrière lesquelles on peut travailler à plusieurs sur un texte. Mais c'est beaucoup plus enrichi. Parce que EdgeDoc nous permet d'avoir d'abord le plaisir d'écrire en Markdown, ce qu'on peut faire dans Etherpad aussi, mais on n'a pas de rendu dans Etherpad. On ne voit que les caractères particuliers, comme le dièse pour faire un titre, le double dièse pour faire un petit titre. Et tout
c'est comme si on écrivait en anglais, en français, en Markdown. C'est une langue comme le vol à poupée.
C'est une structure langagière.
Sémantique.
C'est utiliser quelques graphique. Codes. Ben, c'est graphique, justement. Si vous allez sur src.brussels et vous cliquez sur Nouveau Pad, ben, vous pourrez trouver une interface coupée en deux. D'un côté, là où vous écrivez, en Markdown. Ça veut dire que si vous ne savez pas c'est quoi le Markdown, vous allez chercher sur les internets qu'est-ce que c'est que le Markdown. Oui. C'est une manière de pouvoir faire des mises en page, si on veut, de l'esthétique. En passant sur le fait que on écrit par exemple dièse pour un titre de niveau 1, 2 dièse pour un titre de niveau 2, 3 dièse pour un titre de niveau 3. Si on veut faire une citation, on met un petit crochet, le signe plus grand que au début de sa ligne. Mm-hmm. Si on veut faire des puces, on met juste une étoile, et puis une autre étoile, et puis une autre étoile. Si on veut faire des tableaux, il y a même moyen, en utilisant le symbole pipe, pour séparer les colonnes l'une des autres. Chaque ligne de votre texte étant une nouvelle ligne de votre tableau. Et toutes ces petites facéties ont l'air complexes, mais en fait, quand on y prend l'habitude, on se rend compte que de plus en plus d'outils acceptent comme ça qu'on écrive avec quelques symboles en début de ligne, et ces symboles seront interprétés, un peu comme si on avait une sorte de super simple HTML, hein, quelques concepts à connaître, comment on fait un titre, un sous-titre, une citation, en italique, en gras, par exemple, mettre en gras, ben on encadre le mot ou le paragraphe de deux étoiles. Si on veut mettre en italique, c'est une étoile. Si vous cherchez sur Internet, vous trouverez d'autres manières de faire du Markdown et tous les détails concernant cette manière d'écrire. Et donc sur le pad proposé par EdgeDoc, l'avantage c'est qu'on a d'un côté là où on écrit et de l'autre côté on peut voir tout de suite le résultat.
Il y a même aussi un mode où on ne voit que le résultat, oui. Et un autre mode où on ne voit que ce qu'on a écrit, en Markdown, sans interprétation.
Exactement. Avec des petits trucs sympas, c'est que justement, si on fait un document structuré avec plusieurs niveaux de titres, il y a une table des matières qui se génère automatiquement.
Oh, ça c'est classe.
On sait faire ça aussi dans Headerpad, mais pour ça, il faut rajouter un plugin, une extension. L'autre truc sympathique avec EdgeDoc, c'est qu'aussi on peut y coller directement des images. Et ça, c'est une grande évolution par rapport à Headerpad, où là aussi c'est possible avec un plugin qui marche moyennement bien, je trouve. Tandis que dans EdgeDoc, ça marche assez bien. Si vous faites une petite capture d'écran quelque part et que vous voulez la rajouter à votre nouveau pad, votre nouveau document, rien qu'en allant faire un CTRL-V là où vous voulez voir apparaître votre image, elle sera télécharger, téléverser automatiquement dans le serveur qui héberge votre pad et l'image apparaîtra dans le rendu visuel à droite de votre nouveau pad.
Il y a aussi le moyen de faire des présentations.
Oui.
Donc ça c'est... Il y a aussi un... Ce qui est chouette dans HDoc, c'est qu'il y a un petit bouton point d'interrogation qui liste plein de choses et de fonctionnalités, dont la présentation. Et ça, c'est assez agréable parce que la présentation, c'est souvent quelque chose que ça prend du temps, soit d'ouvrir une presse, soit d'ouvrir plein d'autres logiciels de présentation. Alors que là, bah, c'est le même outil. Et du coup, on peut aussi collaborer à plusieurs pour écrire une présentation.
Et le logo, c'est un petit hérisson.
Le logo est un petit hérisson, tout à fait. Le mode présentation, par exemple, il est très chouette parce que une fois qu'on a écrit sa présentation pour accompagner sa conférence, évidemment, on a envie de pouvoir la jouer. Tout ça, malheureusement, dépend d'une connexion Internet, mais on va dire qu'aujourd'hui, en tout cas à Bruxelles, en Europe, on est bien connecté.
On peut aussi l'exporter en PDF.
On peut aussi l'exporter en PDF, mais alors on n'a pas justement le mode présentation qui permet d'avoir, comme avec un logiciel fait pour ça, et si on a deux écrans, l'écran principal qui va afficher le contenu de cette nouvelle présentation et l'écran de son petit ordinateur qui va afficher le diapo suivant, le résumé de la navigation, des commentaires qu'on peut mettre aussi dans sa présentation et tout ce genre de choses comme on a dans les logiciels de présentation. L'autre truc sympa aussi, c'est que si on fait un copier-coller d'un tableau, ça c'est particulier, il ne va pas transformer ce tableau en un tableau au format Markdown, mais il va générer automatiquement une image de ce tableau. Et ça c'est assez sympa. Parfois,
une image, un JPEG,
oui,
tu veux dire.
Il va fabriquer un PNG.
Oh, un PNG, oui. Non.
Je n'ai pas compris comment il le fait. Mais c'est magique. Donc quand on copie-colle le contenu d'une feuille calque, par exemple, pas trop large, hein, parce que sinon, on ne sait pas vraiment lire son tableau transformé en image. Mais en tout cas, elle y est. Et si on y colle un grand, à mon avis, en cliquant sur l'image, elle s'agrandira. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
C'est pas mal, déjà, je trouve.
C'est pas mal, hein ?
Ouais.
Donc c'est un autre... outil fort sympathique.
Tu as oublié le mode dark.
Oui, c'est vrai, comme c'est de plus en plus à la mode maintenant, et c'est quand même assez confortable quand on y prend l'habitude.
C'est plus qu'une mode, hein. Dès lors, ouais. C'est un feature salvateur.
Ouais, c'est une pour les œufs. Hein. C'est au lieu d'avoir, comme on a connu toute ces dernières décennies, une informatique écrite en noir sur fond blanc, le mode dark permet d'économiser comme ça la luminosité de l'écran et aussi nos pupilles et nos rétines. Parce que à quoi ça sert d'afficher en blanc des choses complètement inutiles, alors qu'on peut laisser l'écran noir et afficher en blanc le texte. Mmh. Et donc c'est ce qu'on appelle le mode dark, c'est une sorte d'inversion des couleurs par rapport aux habitudes qu'on a. Et donc EdgeDoc, comme d'autres outils, permet en un bouton comme ça de basculer du mode noir sur fond blanc au mode blanc sur fond noir. Voilà.
Et là, d'entrée de jeu, tu disais, voilà, sur le site de src.brussels, mm-hmm. donc le site de source,
oui.
Un site qui permet donc à des gens de pouvoir utiliser de leur côté le pad en passant oui. sur le site de source.
Tout à fait.
Vous avez entendu ça, les gens ? C'est pas dingue, ça ?
C'est dingue. Hein,
c'est bientôt le printemps, hein. Il y a la créativité qui sort de clavier, là.
J'ai cru que tu attendais une réponse.
Du tout, non, les gens qui nous écoutent.
Bien sûr.
Et plus que nous quatre.
Ben, c'est, tout ça est possible, comme toujours, hein, comme vous le savez, chers auditeurs, chères auditrices. Nous faisons souvent la promotion de solutions comme Why You Know Host. Ben, il va de soi que, évidemment, pour une fois, on n'est pas comme le cordonnier mal chaussé. Source dispose de son propre Why You Know Host, qui est hébergé sur une machine virtuelle chez Etzner, certes. Hein, on n'en est pas à faire tourner source sur une brique Internet, parce qu'on a justement l'opportunité de vous proposer des fonctionnalités comme EdgeDoc ou comme Mumble, qui seraient un peu trop exigeants probablement pour une brique Internet. Donc c'est pour ça qu'on a opté pour un serveur hébergé chez dans un data center, un serveur virtuel. Et donc voilà, si vous allez sur src.brussels, vous pourrez aussi profiter de Mumble.
Quand vous irez
sur... Oui, quand vous irez.
Il n'y a pas de conditionnel, hein, vous y allez.
C'est tout ouvert. Hein.
Oui.
En permanence.
Il n'y a pas de souci. Non, vous pouvez aller sur src.brussels sans condition. Sine qua non préalable.
Tout à fait. Voilà. Ça, c'était pour la petite minute. Présentons un logiciel libre qu'on aime bien.
Ça fait presque comme si on avait des chroniques.
Après cette belle présentation, je propose une petite pause musicale / technique pour pouvoir accueillir Slitar,
oui.
Voilà. Donc, je propose de commencer par le morceau que Ajo m'a soufflé dans l'oreille. Oui, est-ce que tu veux bien le présenter ?
Voilà. En gros, c'est... C'est un morceau d'un petit groupe français qui fait des remixes et surtout du reggae dub, pour ceux qui connaissent. Et il se trouve que hier, c'était l'anniversaire de la commune, les 150 ans. Et donc, ils ont invité plein de copains pour faire un mini-album en hommage à la commune.
Ah, ce carnage.
Et c'est qui le groupe ?
Dubamix.
Et c'est quoi la commune ?
On l'explique peut-être après, je sais pas.
On l'expliquera après.
C'est le début du logiciel libre.
So the legacy, let's talk about the legacy. Just 2 months spring, 1871. People want social changes, then they make them real. People want social changes, following their deal. Cooperative setup, people running their things. All our ID workers, the same dignity. No president, no man, no commander in chief. No church, no state, more and more relief. It's the legacy that will lean on. Men and women on the front. No more children at war. Free school, free clothes, free food for them all. It's a long road for the revolution. Gotta mix play for emancipation. No time to waste in the confusion. Remove your with your reaction.
Le drapeau rouge, l'horreur que l'art coule vous inspire et l'odeur de la poudre. Voleur de l'art pour le prolétaire s'invite au cœur de la cour. C'est notre heure, nos peurs s'éparpillent dans le Paris des barricades et des canons. Sache que les camarades et les damnés de la terre sont tous passés à l'action. Brûler les baillons, on a arrêté de répéter la messe. L'obscurantisme fait place à la fête, on investit l'église et sans payer la quête. Fédéré à la tête de la production, c'est la révolution. On a les solutions en des salons, démocratisation et gratuité de l'éducation. Les friqués ont flippé face à la grande revanche des humiliés. Ils n'ont pas su anticiper. Gardons en nous la mémoire des fusillés. Car la commune est vivante dans nos quartiers, nos cœurs, nos ades et nos aigreurs. Que crève le vieux monde et sa laideur. Quand est-ce qu'on crame le sacré cœur?
It's a long road for the revolution.
Comme une arme.
Got a mixed play for emancipation.
Comme une arme.
No time to waste in the confusion.
Commune, 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 collective. Remember, we need each other. Respective autonomy, long journey. Know it well. Dusty road with Louise Michel. They're hiding in Versailles again. They starve our children and they kill our friend. Carry on tradition. Waves of resistance. Always been, always be. Free humanity. And if that's our priority, we find a way. Poutonin is enchanté. Death to monoculture and long live diversity. Bread and knowledge for all of us. We harvest, cultivate. Ideas don't die, they hibernate. Wait for us to take, continue. That's Panam. Anger, restless, fear, and loathing. Caring, learning, fucking, growing. Trusting, building, hating, loving, creating. Now she's breathing.
It's a long road for the revolution. Got a mixed play for emancipation. No time to waste in the confusion.
Artisans, ouvriers, tous les oubliés, que ces bourges-pieds sans jamais sourciller. Soupés, surveillés, soumis, sur des dents pour le billet qui les faisait tous plier. Crouquiers, trace qui soufflient, le meilleur des boucliers, contre l'ordre à tous liés. Marre de se faire houspiller, d'avoir la frousse crier. Ous, drapeau rouge, qui s'est tous ligués pour se libérer. 18 mars, les parigots fâchés tiendront tête aux armées, les canons seront gardés. 28 mars, la commune proclamée, deux mois se passent enflammés, du mois de mars au mois de mai. Autogestion dans les ateliers, plus question de patron ni d'être employé. Fin de l'obligation de payer son loyer, révocabilité de tous les mandatés. L'école est publique, gratuite et laïque. La commune sépare vite, le rigide est statique. Les étrangers admis, citoyens, le programme qu'on imagine pour la suite était déjà entamé. Se passant à Paris, 150 ans dans le passé. Au final, c'est le bain de sang et les corps sont assez mêlés. Communards vivent encore dans nos mémoires, vivra vive l'histoire d'une victoire et ne se rendront jamais.
It's a long road for the revolution. Got a mixed play for emancipation. No time to waste in the confusion. Remove ya. Since 1871, we want equality for everyone. On the barricades, our artworks, we don't wait for crimes or purge. Free and secular education, what is in self-organization? Equal pay for men and women, we're proud to carry on the demands. We build up with the black rock in our heart. Taking part of the social struggle, we refuse the leash and the muzzle. It's a long road for the revolution. Got a mixed play for emancipation. No time to waste in the confusion. Remove ya with your reaction.
Un empire qui s'effondre, c'est le peuple qui se lève. Des lendemains qui se chantent, l'avenir qui se rêve. C'est l'histoire qui se grave par le glaive de la foule. La révolution fleurit par le système qui s'écroule. Reprend le contrôle des canons, on reprend le contrôle de nos vies. Disparus les bourgeois, les patrons. Donc ça légifère, l'hôtel de ville. Ça parle de laïcité, d'égalité, de justice. De liberté, de droits des femmes. Et des prolétaires qui s'unissent. Comité exécutif, communiqué au peuple français. Car on est de ceux qui agissent, on ne fait pas que de le penser. Mais à Versailles, on prépare déjà les représailles. Le bras armé du capitaine ne fait jamais dans le détail. Les canons sur le mont valaient rien. Rappelle au que leur vie ne valait rien. Et la suite, merde, c'est putain de sanglant. Ils ont massacré hommes, femmes et enfants. Mais leur mémoire aujourd'hui survit dans nos combats, dans les squats, les arts et les syndicats.
It's a long road for the revolution.
Comme une arme.
Got a mixed play for emancipation.
Comme une arme.
No time to waste in the confusion.
Contre l'oppression et l'exploitation, pour l'autogestion, contre chaque nation, contre la répression, on veut pas de patron.
mission communale. Communale, communale, le rêve va rester.
18 mars, les canons seront gardés. 28 mars, la commune proclamée.
Communale, le rêve d'un autre monde, d'une autre société.
Dans mes mois, aujourd'hui, survit dans nos combats, dans les squats, les arts et les syndicats.
Communale, 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 le rêve va rester.
18 mars, les canons seront gardés. 28 mars, la commune proclamée.
Communale, le rêve d'un autre monde.
Tu veux gagner un écran plat?
Ah oui?
Oui.
Tu veux gagner un iPod 200 gigas?
Ah oui, oui, oui.
Tu rêves de gagner une Porsche Carrera?
Ah oui, 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 oui.
Oh, rêve pas. 92.1, c'est Radio Campus, mon gars.
Oh, oh.
Ah, chouette ta musique country.
Ah, c'était Michael Sainz de Happy Before We Get Old Instrumental. Trop de verbes, trop de lettres. Ah.
TLDR. Hein? Too long to read.
On les mettrait dans une note quelque part un jour.
Et juste avant, donc c'était Dubamix avec comme invité Marie Nappé, Nada, Drowning Dog, L'Inconsolable. Daman, Mantis et Mal Élevé.
Que du beau monde. Et c'est presque une lockdown party qu'on a écoutée.
Ouais.
Et ça valait la peine. Donc pour,
ouais, tu voulais un peu expliquer.
En hommage à la commune.
La commune, pour faire bref, c'était donc un soulèvement révolutionnaire en 1971 à Paris. Et ils ont en fait...
1971
1871.
Ah oui, parce qu'on fêtait 150 ans.
Ah, oui. Et donc, ouais, ils ont déclaré en fait la commune de Paris comme indépendante. Et après, bon, ça a un peu suivi dans d'autres grandes villes en France. Et c'était pour protester, se révolter même contre l'abdication de la France face à la Prusse.
Mmh, oui,
et
oui.
Aussi parce que la bourgeoisie avait s'était installé à Versailles, s'en foutait un peu du peuple, etc. Un peu, j'utilise un peu beaucoup d'euphémismes là. Mais... et voilà, et après, donc, ça en suivi, les idées communistes étaient présentes, anarchistes, etc. Et il y a eu pas mal d'avancées. En 2 mois, en fait, il y a eu pas mal d'avancées émancipatrices. Et malheureusement, ils se sont fait écraser, c'est le mot. Par la bourgeoisie. 2 mois plus tard, il y a eu, on appelait ça la semaine sanglante, plus de 10 000 morts. Enfin voilà, c'était une vraie boucherie.
Un génocide politique.
Ouais. Donc voilà, et c'est pour rendre hommage aux 150 ans.
Tu vois, dans la perspective, tu me racontes ça, je vois juste derrière toi l'affiche de l'an 01, célébrissime série BD, film. Conséquent. Et voilà.
Non, je me demande si l'an 01, c'était pas aussi vers 1971, justement. Ou 72.
On se connaît peut-être même un peu dans les années 60. Bon, allez, on va vite se renseigner. On a...
Ouais, voilà. Ce qui me plaisait dans cette chanson, c'était qu'à un moment donné, ils disent « La route est longue pour la révolution ». J'ai envie de rajouter « Mais la voie est libre
». Tu peux la rajouter, il faut pas seulement avoir une envie.
Oui, oui, la libre, effectivement. La route est libre. Un petit moment, Sinoche, pour parler d'un documentaire qui est en train de sortir, mais de toujours être en phase d'élaboration. Et c'est Monsieur Splouki qui a eu l'idée de lancer un sondage auprès de certaines personnes pour répondre à la question du titre de son documentaire « Quitter Facebook ?» Point d'interrogation. Hein? Et donc de voir si donner un visage, enfin voilà, son petit laïus par rapport à ça, c'est donc de donner un visage aux usagers, usagères, mais permettre à chacun, chacune de comprendre son addiction et s'il faut continuer ou non, hein, à nourrir une intelligence artificielle qui pourrait à terme devenir un outil de contrôle social et de déshumanisation. Voilà, c'est le pitch de son documentaire. Passez sur lastprod.com, qui est donc la boîte de production avec laquelle il est en train de bosser maintenant, parce que je suis en train de lire que donc l'appel à témoignage, son documentaire sera essentiellement basé là-dessus, vu les conditions de gestion sanitaire, même après un an étant ce qu'elles sont, les interviews et prévues se feront à distance. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas vacciné, que vous ne pouvez pas prendre le train ou l'avion, tout ça va pouvoir se faire par les internets au besoin. Et donc je vois que oui, il a donc fait, bien sûr, on rigolait hors antenne, il a fait le 2 février dernier, le 18 février dernier, une pub sur Facebook pour quitter Facebook, point d'interrogation. Ah, pas mieux, il n'y a pas meilleur endroit que pour ça. Et voilà, donc il y a déjà 380 répondants, la démo du site, et alors donc appel à témoins sur différents réseaux, et donc encore des contributions qui peuvent être apportées à Monsieur Slouki. J'essaie de retrouver son prénom, parce que le site de lastprod.com est bien étoffé. Voilà, donc ça c'est la petite chronique cinéma, libriste, libérateur, libérogène, librophile, qui, surtout si vous êtes dans ce genre de questionnement, quittez Facebook.
La réponse est oui.
Mm-hmm. Tu es dans ce questionnement ?
Non, à la question, la réponse est oui, quittez Facebook.
Ouais.
Il est nécessaire de quitter Facebook.
Il aurait mieux
fallu ne pas s'inscrire.
Ne pas utiliser cette saloperie de merde. Mais bon, c'est tellement chouette.
C'est vendredi, hein, les gros mots sont tout dit.
On se rapproche les uns des autres grâce à Facebook, c'est super. On peut faire plein de trucs et plein de projets.
Hein,
même gérer de la nourriture pour les sans-papiers, par exemple.
Oui, tu peux faire la révolution grâce à Facebook.
C'est un super chouette outil.
Est-ce qu'il y a une page Facebook qui explique comment quitter Facebook ?
Oui.
Alors, son documentaire n'est pas encore évidemment sorti, vu qu'il est en cours de réalisation et de recherche de... Cyril Slouki, voilà, j'y suis. Si vous voulez faire des recherches pour rencontrer cette personne, voilà, avec une toute belle affiche, vous voyez déjà, avec une nuque dégagée, vraisemblablement un visage féminin, profil arrière, c'est pas dire vraiment, mais surtout un code-barre tatoué sur entre la C4 et C5. Voilà. Si c'est gratuit, c'est que c'est peut-être pas vous le produit, donc c'est écrit en tout petit. Voilà, voilà où.
Eh bien, après cette belle séquence cinématographique, je vous propose encore une petite coupure, juste pour accueillir Siltar comme il se doit, parce qu'on m'a indiqué qu'il était présent et disponible. Du coup, à tout de suite.
clandestin? Tu crois que le Monténégro est un club échangiste africain?
Tu crois que la reine Fabiola a le même toiletteur que son chien?
Pour tout savoir, Radio Campus
91.
Eh bien, c'était...
Ça, c'est des jingles.
Ah, c'est des jingles de source. Non, de campus.
Un campus,
à tout. Et oui, source. Du coup, nous sommes dans l'émission source, sur Radio Campus 92.1 à Bruxelles. Et ce qu'on vient d'entendre, c'était Bop by Rex Banner. Et avec nous maintenant...
La force des internets. Marche. Slitard est au bout du mumble.
Il est là.
Wouhou, bien, ok, magique, grand magique. Bien, enchanté, désolé pour les moyens techniques à distance, Ciel. On aurait dû débarquer chez toi avec le studio mobile de Source et pouvoir discuter avec un développeur d'une extension très journalistique, dans l'absolu. Tu peux te présenter un peu plus
de... Tout à fait, vous n'auriez pas été déçu du voyage.
Mais je m'en doute, voilà, comment ça ressemble à autour de chez toi. Tu me disais que ton petit bout est allé dormir, donc tu es plus disponible au micro.
Les Deux-Sèvres.
Dans les Deux-Sèvres, oh waouh.
Eh oui.
Oh. Un petit vin blanc sympa.
Au milieu de la moitié nord du département, là, à une heure de la première gare TGV.
Mm-hmm.
De la nature tout autour, l'endroit parfait pour un confinement.
Ouais, je vois. Et par la fenêtre, là maintenant, qu'est-ce qu'on voit autour de toi?
Magnolia, il est énorme. Il doit avoir plus de 20 ans. Et il a bien hésité, mais il commence vraiment à ouvrir ses fleurs.
J'ai la chanson de Claude François en tête maintenant.
Ça fait un an qu'on attend ça. Hein.
Ah oui.
Et voilà, mais c'est pareil, j'ai toute une enfance avec cette chanson dans la tête et je viens d'emménager là, hein. C'est assez récent que je sois pile dans cette maison-là. Et du coup, là, ça fait un an qu'on a emménagé, mais on l'avait pas encore vu fleurir. Ça fait un an que je pense à Claude François en me disant « je vais enfin savoir, enfin ». Et là, les bourgeons viennent faire 6 mois d'hiver et ça y est, ça commence à éclore. Je crois que la chanson le vaut bien, ouais.
Donc tu comprends, oui, son inspiration à lui, et je veux dire, Magnolia qui se met à éclore comme ça tout doucement, c'est aussi chouette pour, et efficace pour l'inspiration d'un dev, l'opper. Tu vas te mettre à la chanson d'un coup.
Ça a au moins un avantage, c'est que, non je vais pas me mettre à la chanson, mais ça a au moins l'avantage d'encourager à lever la tête et regarder ailleurs,
ouais.
Et du coup de focaliser sur autre chose que son écran, parce que sinon je focalise en permanence sur un point qui est à moins de 50 cm de ma tête, et là au moins d'aller chercher ce que je vois par la fenêtre plus loin au fond du jardin à 20 mètres, 50 mètres, le bout là-bas à l'horizon, ça entretient la musculation des yeux là, et c'est bien mieux pour c'est la vision le reste du temps, quoi. Sinon après tu débarques dans la bagnole et tes yeux ils savent plus regarder loin, c'est galère. Et je repense à tous mes potes qui étaient à Paris. À Paris, quand il faisait beau, tu pouvais éventuellement sortir sur la terrasse tout en haut de l'immeuble dans lequel on était pour éventuellement bien te polluer les poumons avec tout ce qui pouvait émaner des rues jusque là-haut. Et les clopes des gens autour qui fumaient assidûment et que c'est pour ça qu'ils se motivaient à aller jusque dehors. Et donc voilà, je repense à eux parce que, bon, à Paris, quand il fait beau 3 jours de suite, c'est une alerte à la pollution.
Ouais.
Eux, ils avaient un petit carré de béton en haut d'un immeuble plein de clopes affreuses. Et moi, là, j'ai mon magnolia qui fleurit. Et je suis bien content.
Oh oui, c'est une belle introduction, ça, pour se rendre dans les Deux-Sèvres le plus vite possible. Et je veux dire que toi, tu es développeur, hein, pour rentrer un petit peu dans refaire le lien avec notre émission Source, qui est très libriste, et toi qui l'es aussi.
Chanson.
Comment dis-tu? J'ai entendu un petit bug de mumble, j'ai pas entendu.
Je dis oui, avançons dans le vif du sujet, là, tout à fait.
Ouais, ouais, parce que c'était sur un poste de... sur Diaspora, je crois que j'avais vu passer un article qui parlait de ta nouvelle super extension et du fait que tu t'occupes de la revue de presse, enfin de la Quadrature du Net. La Quadrature du Net a une super revue de presse grâce à une extension que tu as développée. Je résume bien?
Tout à fait. Ouais. Pendant 5 ans, la revue de presse de la Quadrature du Net, on a été toute une équipe à s'y consacrer, avec y compris un Belge, qui était très efficace. Je tiens à le saluer, s'il m'entend, il se reconnaîtra. Mais donc, ça, on faisait tout à la main. Et on a construit des petits outils qui s'emboîtaient bien à la façon Unix. Chaque truc qui fait sa tâche et rien d'autre, et mettre tout bout à bout pour faire des grands flux de traitement. Mais bon, c'était fait beaucoup à la main. Et là, voilà, pendant 5 ans, c'était plus d'une heure par jour de copier-coller, de sélection, d'exploration. Et surtout, pendant cette tâche-là, je me suis bien rendu compte qu'on ne pouvait pas se passer d'un outil très performant qui s'appelle Google Actualité. Mmh. On ouvre un compte là-bas, on dit « je m'intéresse à une assoce qui s'appelle comme ça » et la promesse de Google, c'est de dire « je vous envoie tout ce qui existe ». Et bah, la quadrature du net, qui défend la neutralité du net, condition sine qua non à l'existence des logiciels libres, qui défend la liberté d'expression, qui est une autre façon de voir cette neutralité du net, on se trouvait régulièrement à critiquer la position hégémonique de Google et la moindre mauvaise décision qu'ils pouvaient prendre sur le sujet, parce qu'ils sont tellement importants sur Internet, tellement gros, tellement d'utilisateurs passent par eux, que quand ils prennent une mauvaise décision, ça impacte beaucoup la face de l'Internet. Internet devrait être un réseau décentralisé, comme l'expliquait Benjamin Bayard. Il a été inventé comme étant un sac de fil au milieu avec des ordinateurs branchés tous ensemble, mais tous égaux. Et malheureusement, quand on est utilisateur de Google, eh ben on n'est plus tous égaux. Soit on passe par les serveurs de Google, soit Google ouvre ses portes pour qu'on puisse passer par ses services, soit on se retrouve à devoir chercher autre chose. Donc, la quadrature du net critiquait très régulièrement les mauvaises décisions de Google en matière de neutralité du net, et on était complètement dépendant de son service pour faire la revue de presse. On a essayé ça, j'ai cherché pendant des années un outil alternatif, puis ensuite on a fait une équipe, on s'est dit on se répartit les journaux principaux, chaque soir quelqu'un va aller regarder sur telle liste de journaux, là, puis ensuite on fait le point à telle heure et on regarde qui a trouvé quoi.
Mmh. C'était un travail monstrueux. Bon, au niveau journalistique, vous cherchez quel genre d'article ou quel genre d'info par rapport à la quadrature du net?
Alors, il y a deux types principaux d'articles sont publiés dans la revue de presse de la quadrature. Tout ce qui parle de nous.
Oui, je m'en doutais.
C'est-à-dire qu'on dit des trucs, on fait des communiqués de presse, on regarde si c'est ressorti dans la presse ou pas. Et puis sinon, ce qui parle du secteur. La quadrature du net, donc, c'est une association de citoyens, de personnes libres et conscientes qui s'intéressent à défendre la neutralité du net, donc quand j'en parlais, parce que c'est une condition à la liberté d'expression, une condition à l'existence du logiciel libre, parce que c'est seulement quand on peut accéder à n'importe quel site web à la même vitesse que ce soit celui de Google ou que ce soit mon blog hébergé chez moi, que l'Internet tient ses promesses de permettre à chacun à la fois de lire et de publier du contenu. Internet, c'est un peu ça le truc, quoi. C'est un réseau avec tous les ordinateurs connectés, et c'est pas ce qu'on a eu en France qui était le Minitel, avec un ordinateur à Paris et chez les gens des clients qui pouvaient rien faire d'autre que se connecter à cet ordinateur.
Pourtant, ils sont faire le choix du le Minitel quand même resté longtemps. Là,
qu'il a fallu que je me connecte sur ce Minitel moi et que je précise quelle était mon orientation. Il fallait que j'utilise ce système qui était complètement verrouillé.
Ouais, on revient de loin.
Donc, Là, on revient de très très loin, mais particulièrement en France, quand on a vu apparaître là, les mails gratuits, les gens se sont dit, mais c'est pas possible, il y a un truc qui cloche, on comprend pas comment ça peut marcher, parce qu'on était complètement dans le moule de ce système-là, tout à fait centralisé. Alors, Internet qui dit, il n'y a plus le serveur central, et le Minitel que vous aviez chez vous, ce client débile au sens propre du terme, débile parce qu'il pouvait rien faire, en fait, maintenant, c'est votre ordinateur, et votre ordinateur, il peut à la fois aller lire les contenus des autres, mais aussi en publier. Il peut aussi offrir les services. Vous pouvez produire l'Internet que vous consommez via votre ordinateur. C'est quand même ça la grande promesse de l'Internet. Et c'est ce qu'on perd en passant par les GAFA. C'est ce qu'on perd en passant par Google. Donc, dans la revue de presse de la Quadrature, on cherchait des articles qui parlent des lois proposeraient de réguler ces trucs-là. Parce que à partir du moment où la sphère politique a compris que sur Internet, il y avait de la liberté d'expression, qu'on n'avait plus tellement besoin de représentants pour s'exprimer, mais qu'on pouvait le faire nous-mêmes, ah ben là, ils se sont sentis très menacés parce que les représentants, c'était eux. C'est eux qui étaient en train de perdre leur monopole de la communication de « je parle au nom des Français et au nom des francophones ». Et donc, il y a eu beaucoup d'attaques politiques dans le début des années 2000 contre Internet. On voulait réguler l'Internet, on voulait civiliser l'Internet, on voulait mettre Internet au pas. Les politiques se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas le contrôle de ce média et ça leur a posé beaucoup de problèmes. C'était sur le chemin entre eux et leurs électeurs et il ne faut pas se trouver sur ce chemin-là. Ils ne sont pas du tout souriants quand on est un obstacle entre eux et leurs ambitions. Et donc, il y a eu plein de lois qui se sont proposées sous plusieurs prétextes de réguler l'Internet. On a dit partager de la culture en ligne, s'échanger des morceaux de musique comme on s'échangeait des cassettes au collège. Et ben ça, c'est pas bien. On nous a dit que ça tuait la musique. Comme à l'époque, on nous disait d'ailleurs, enregistrer la radio sur une cassette, ça tue les artistes. Ça les a pas tués, puis sur les mini-disques non plus, puis sur les disques non plus, et puis s'échanger des MP3, ça tue toujours pas les artistes. Ils sont la peau coriace, sont coriaces les artistes. Par contre, les distributeurs de CD, ça leur fait pas mal de mourons et de cheveux à s'arracher, de se rendre compte que leur monopole sur la distribution de la musique vole en éclats avec Internet, et depuis Napster. Alors là, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour, c'était des grandes étapes, la loi Hadopi en France, faire de lance de la lutte contre la loi Hadopi, la quadrature du net. Et donc, qu'est-ce qu'on mettait dans la revue de presse de la quadrature du net? Des articles qui expliquaient les différentes étapes de l'évolution de l'adoption chaotique de cette loi, qui a été censurée par le Conseil constitutionnel, qui est revenue, qui a été vidée de sa substance et dont les décrets d'application n'ont pas complètement fini d'être parus, d'être publiés, et qui n'entrera jamais en vigueur comme elle était prévue. Aujourd'hui, la Hadopi, c'est quand même une grande victoire des citoyens et de l'Internet contre la régulation par le politique, parce que la Hadopi, aujourd'hui, c'est une machine à spam qui mange des millions et qui n'a aucun résultat. Donc voilà ce qu'on mettait, nous, dans cette revue de presse. Et j'avais ce besoin de cohérence entre... les positions publiques de cette association et les outils utilisés pour faire la revue de presse. Et après plusieurs années à se débattre pour essayer de contourner le problème, je me suis souvenu d'une discussion que j'avais eue avec Benjamin Bayard, qui est un penseur de l'Internet français, là, qui a fait une conférence que je vous conseille, justement Internet 2.0 ou Minitel. Peut-être même dans l'autre sens, elle s'appelait Minitel ou Internet 2.0, et elle détaille bien plus clairement ce que j'ai balbutié en début d'explication. Et ce monsieur, il m'avait dit, l'un des problèmes, l'un des outils qu'on aura du mal à décentraliser, c'est les moteurs de recherche. À peu près tout le reste, on arrivera à faire une architecture pour avoir le service de manière décentralisée. Un bon exemple, c'est le mail. Le mail, c'est une grande fédération logicielle. Le mail, c'est un service que vous pouvez héberger vous-même et qui va s'interconnecter quand même avec les plus grosses entreprises, avec les États qui hébergent leurs propres services, avec le mail de la Poste qui parle avec le mail de Hotmail ou avec le mail que j'héberge moi. Ça marche, c'est un très bon exemple. Et c'est vers ça qu'on voudrait tendre. C'est pour ça qu'il y a des services comme Mastodon ou comme Peertube qui voient le jour. Le but, c'est de trouver une architecture décentralisée pour rendre les mêmes services. Et on restait sur, mais moi, ce dont j'ai besoin, le moteur de recherche, ça, c'est compliqué à décentraliser.
Il y a fortiori un moteur de recherche uniquement sur la presse quotidienne, hebdomadaire, mensuelle. C'est, dans la mesure où c'est un outil spécifique dont vous aviez besoin à la quadrature, c'est pas évident non plus alors.
C'est pas évident. La première idée qui viendrait, c'est de se dire, on fait un moteur de recherche généraliste et après, on le limite à la presse. C'est ça que fait Google. Google dit, j'ai une copie d'Internet en mémoire RAM. Si tu as besoin de quelque chose, bouge pas, je te le trouve. Bon. Mais ça nécessite quelque chose de centralisé. Et si on dit, il y a plein de projets qui ont essayé de faire des moteurs de recherche décentralisés, comme Circ ou Yassi. Et ils se sont dit, on va avoir des nœuds répartis, chacun aura une portion de la copie d'Internet, de l'index avec toutes les pages. Et quand on pose une question, ils vont causer entre eux et ils vont trouver la réponse. L'inconvénient de cette approche, c'est que on a besoin de déterminer la pertinence des pages entre elles. Il y a des contenus, quand vous cherchez quelque chose, vous allez être intéressé par certains contenus en priorité. Vous voulez une page avec la réponse à votre question dedans. Hein. Or, bah, des pages, il y en a beaucoup, et trouver celle avec laquelle il y a votre réponse dedans, ce n'est pas évident. Dans l'historique des moteurs de recherche, là, avant Google, comment ça se passait à Alta Vista, Yahoo, il y avait des humains qui étaient payés à parcourir Internet et puis qui mettaient des notes aux pages et qui disaient « celle-là, elle est bien, il y a des bonnes réponses. Celle-là, on oublie, c'est tout vide ou c'est plus mis à jour ou c'est périmé ou c'est pas lisible ou c'est pas la bonne langue. » C'était des humains qui indexaient l'Internet. La magie de Google, c'est qu'ils sont arrivés avec un algorithme des quelques... Le Google des débuts, là. Hein,
oui, le strict moteur de recherche.
Dans un garage. Ouais. Voilà, et ça fonctionnait sur un seul ordinateur qui devait être branché, je ne sais plus si c'était pas quelque part, même encore dans leur université, le temps que ça démarre. Mais ils avaient eu une idée de génie. Ils se sont dit, on va pas payer des gens à ranger les pages les unes par rapport aux autres. On va regarder comment est structuré l'Internet, quel lien pointe vers quelle page, et se servir de ça pour déterminer l'importance des contenus. Mmh. Il y a deux cas de figure, soit une page... est référé par plein d'endroits, c'est-à-dire que tu t'intéresses à quelque chose, on va toujours te renvoyer vers cette page-là. Bon, bah, c'est que cette page, elle fait autorité, elle est plus importante que les autres. Mm-hmm. Soit, dans l'autre cas, eh ben, c'est une page qui renvoie vers plein d'autres. Dans ce cas, celle-là, c'est que c'est une page annuaire, un petit peu, et elle est intéressante aussi, parce que si tu cherches quelque chose, en partant de celle-là, tu trouveras ce qu'il te faut. Donc ça, c'est le fondement du page ranking. Voilà comment Google a révolutionné le moteur de recherche. Et quand on veut faire ça de manière décentralisée et répartie, avec plusieurs acteurs qui se partagent une partie de l'index et puis qui doivent répondre en se concertant les uns avec les autres, on n'est jamais à l'abri qu'il y ait un des nœuds du nuage de nœuds qu'on a mis en place pour essayer de refaire le même service décentralisé, qui introduise des données erronées dans la recherche. C'est-à-dire... Facebook qui ferait son nœud de recherche et qui dirait les pages Facebook elles sont super et si on me demande mon avis je dis que c'est les meilleures.
Oui, c'est là, évident.
Comment on fait pour avoir quelque chose comment on fait pour avoir un avis objectif sur les pages? Donc on était là en 2013 en train de se dire ça va être compliqué de faire un moteur de recherche décentralisé et ça va être compliqué de faire un moteur de recherche pour la presse décentralisée. Voilà, architecturalement, on ne savait pas trop faire. Et il y a plusieurs projets qui ont essayé, ça avance comme ça peut. Moi, je me suis dit, je n'ai pas besoin de quelque chose d'aussi complexe. Est-ce que je ne peux pas tirer parti du fait que je suis dans une niche? J'ai juste besoin de la presse.
Et c'est comme ça que...
Et à ce moment-là, je me suis dit, je voudrais faire un index réparti,
Je te vois
un index réparti sur la presse. Et là, je me suis dit... Est-ce que j'ai besoin de tout créer? Est-ce que je pourrais pas me contenter de rassembler des choses qui existent déjà? Qu'est-ce qui existe déjà? Eh ben, les journaux, dans la plupart des cas, ils indexent leur contenu eux-mêmes. Il y a un moteur de recherche sur chaque journal. Du coup, toutes les difficultés se sont envolées. Il suffit de coudre ensemble tous les index de tous les journaux et on se retrouve avec quelque chose qui aura les mêmes résultats que Google Actualité. On fait un outil... un outil capable d'interroger les journaux à la place des gens. Et on se retrouve avec le même système qu'on avait fait avec notre équipe d'humains en disant, toi, tu vas interroger ces journaux-là, on se répartit, toi, tu fais les autres journaux. On avait 15 journaux à faire, on en fait 5 chacun, quand on est 3, ça marche. Là, on a une extension qui connaît pour l'instant 285 journaux et qui, je sens que je ne suis pas tranquille, qui connaît 285 journaux et qui, quand on lui pose une question, va tout simplement aller demander aux 285 journaux est-ce qu'ils ont des réponses sur ce sujet.
Ah, c'est pour ça qu'il y a besoin d'autorisation d'accéder à tous les sites, entre guillemets, de ces journaux-là.
Parce que je vais lire le contenu de ces journaux pour vous ramener les résultats. Okay. L'extension, elle fait ça. Et... le cas particulier qui nous sauve, outre le fait que l'index réparti existe déjà, c'est que la pertinence dans le domaine des actualités, eh ben, c'est précisément l'actualité du résultat. La pertinence d'un résultat, c'est sa date. Du coup, je n'ai pas besoin d'inventer un algorithme et d'être un super chercheur pour savoir quel va être le meilleur des articles. Je me contente de vous les trier par ordre chronologique. Et ça, les ordonner par ordre chronologique, n'importe quel ordinateur le fait. Un ordinateur, c'est ce que ça fait de mieux. Et donc même votre téléphone, il est capable d'aller vous trier par ordre chronologique 2000 résultats si vous en récupérez autant sur une bonne recherche.
C'est génial. Ah ouais, ok. Mais donc, et les 285 journaux, ce sont des magazines, des sources d'informations dont la Quadrature du Net avait besoin, ou en tout cas, c'est le chiffre actuel.
C'est le chiffre actuel. Depuis le début du projet, alors tout à l'heure on était en 2013, hein, il y a eu des prototypes, j'ai essayé, ça marchait pas. Il fallait justement pouvoir avoir donné les droits à l'extension d'aller lire le contenu des pages. Et ça, le JavaScript d'un site web normal, il ne peut pas le faire. Et donc avant que je me décide à faire une web extension avec le projet, eh ben, techniquement, il y avait des verrous. J'ai fini par trouver comment justement donc lever ce verrou-là vers 2017. Et depuis, je bosse énormément sur le projet et j'ajoute des sources tous azimuts. Dès le tout début du projet, dès la première version en ligne, il y avait dans les paramètres de l'extension une grande case de texte dans laquelle on pouvait définir une nouvelle source. Et tous les utilisateurs, s'ils sont capables, alors je parle de ceux qui vont accepter d'aller lire l'architecture d'une page web et de me faire 5 sélecteurs CSS.
Ah, les chipoter dans le code, comme on dit.
Eh oui. Mais avec cet outil, tous ceux qui peuvent pourront ajouter des sources. Si les sources marchent, vous me les envoyez, je les intégrerai à la liste
des journaux
par défaut, à condition que ça respecte 2-3 éléments de la charte. Je parle d'informations vérifiables et vérifiées, par exemple, pour m'éviter d'intégrer des sources un peu trop farfelues.
Des trucs de fake news comme chez Facebook. Enfin, pardon, c'est pas un journal Facebook, pardon, je me suis trompé.
C'est pas mais, encore un média.
Mais il y en a qui essaient de se faire passer pour des journaux, oui, et bon, ça vaut le coup d'avoir quelques arguments rationnels. Mais moi, je veux pas empêcher les gens de faire ça. Si vous voulez intégrer cette source et l'utiliser en local, la porte est ouverte, il n'y a pas de souci, vous pouvez.
Mm-hmm. Oui, dans les préférences de l'extension.
De l'extension.
Ouais, dans les préférences de l'extension, il y a un champ qui permet d'aller éditer soi-même ses sources et de rajouter des sources.
Avec les 285 exemples qui sont donnés juste en dessous pour avoir l'inspiration. Et la documentation est très fournie là-dessus, en ligne sur le site meta-press.es. Eh bien, il y a ce qui est le mieux documenté, c'est comment on ajoute des sources. C'est là que j'ai consacré le plus d'énergie. Mais donc, ces sources, c'était... Oui, à moitié-moitié, des sources internationales. Je suis allé sur Wikipédia prendre la liste des Newspapers of Record, les meilleurs journaux qui se reconnaissent entre eux, là. Ça vaut ce que ça vaut comme classement, mais moi, j'avais besoin d'une liste. Et
Slitar, souhaites-tu que nous fassions une pause momentanée et tout à fait légitime du soir pour que tu vois les rapports de génération entre parents et enfants?
Non, ça vient se résoudre, il n'y a pas de souci.
Ok, ça va alors, quand tu veux. On pourrait se retrouver un petit peu plus tard, si tu voulais. C'était vraiment à ta guise. Tu as pris un journal, tu l'as plié en quatre et tu lui as dit, tu sais, ça.
Ça, c'est une source.
C'est le travail de papa. Alors, c'est important.
Non, mais ça, l'assistance requise est intervenue.
Mais je me souviens qu'il y a quelques années...
Et donc,
voilà
des sources, Oui.
Il y a quelques années, le monde de la presse tapait justement sur Google News parce qu'ils octroyaient une sacrée part de marché, que les gens se satisfaisaient des retours de recherche, de requêtes dans Google News. Et finalement, bon, là, voilà. À ça, je crois que Google avait répondu à la presse. Mais trouver une autre manière de financement un peu plus intelligent et vous ne râlerez pas. Hein, effectivement, je suppose que c'est des baisses de recettes publicitaires. Mais toi, avec ton extension pour Firefox, tu ne te retrouves pas dans les fourches coudines des journaux ?
En France, le scandale il a éclaté en 2018 pour le début avec Google.
Ouais, hein,
moi, je venais de passer 6 mois à commencer à développer le truc. j'ai eu quelques sueurs froides. Moi, je rentre pas dans les critères. Personne n'attaquera l'extension parce que je ne vends rien et qu'il n'y a pas de pub et que du coup, les vautours ne seront pas intéressés par les charognards n'ont rien à récupérer là-dessus, il n'y a pas de souci. Et puis, j'aime bien parler de cette histoire parce que, étonnamment, moi je suis du côté de Google là-dessus. Ils ne demandent rien à personne, ils font un service, ils apportent de l'affluence aux journaux en question. Et puis, les journaux râlent, parce que, un peu comme nos agriculteurs, là, maintenant, avec la PAC, depuis qu'ils ont compris que c'est avec les aides qu'ils gagnent leur vie et plus avec leur métier, voilà, les journaux disent « Ah, le monde de la presse est en crise, on a besoin de financement, aidez-nous à survivre ». Si vous faisiez bien votre boulot comme Mediapart, il n'y a pas de crise, hein. Ils embauchent, ils grossissent, pas de problème. Par contre, les BFM, les RMC, les machins comme ça, là, ouais, peut-être ils sont en crise, mais peut-être aussi qu'ils font de la merde. Bon. Ils sont mis à taper sur Google pour récupérer de l'argent. Alors, si on se met de leur point de vue, il faut comprendre, leur business maintenant, c'est plus de produire de l'information et de faire du journalisme, c'est de vendre du temps de cerveau disponible à tout ce qui peut s'imprimer. Hein, c'est pas qu'à la télé, cette histoire. Du coup, c'est pas de bol, parce que c'est vrai, les gens, ils vont, pourquoi pas, ceux qui passent par Google Actualité, ils peuvent tout à fait se contenter du titre et très probablement de l'extrait. Qui a envie d'aller passer un quart d'heure à lire en détail un machin beaucoup plus long? On est maintenant avec une autre consommation de l'information. On est autant de Twitter. Les gens doutaient que Twitter fonctionne. Il n'y a plus à en douter aujourd'hui. Le microblogging, on s'en contente beaucoup, en fait. On s'en contente pas mal pour 80% du truc. Et oui, les gens restent devant les pubs de Google et vont pas jusqu'au site en question. À quoi bon cliquer sur le lien? On va se retrouver devant un paywall. On va se retrouver bloqué à devoir s'abonner au journal pour pouvoir accéder à la suite. Une fois que tu t'es mangé trois fois un paywall, t'arrêtes de cliquer sur les liens, ça peut se comprendre. Suite à quoi? C'est Google qui engrange les bénéfices publicitaires, c'est quand même pas de bol. Google vole les recettes publicitaires des journaux en s'intercalant. On peut voir ça comme ça. Bon, le bras de fer a été rapide. Hein. En France, Google a dit, si c'est les extraits qui vont pas par rapport à la loi, eh bien, je mets plus les extraits. Vous allez avoir 25 fois moins de visites, mais ça, c'est vous que ça regarde. Ceux qui veulent que je remette les extraits, vous mettez dans le fichier robot.txt une mention qui dit qui vaudra contrat et qui dit « Vous m'autorisez à remettre les extraits ». En deux semaines, 90% de la presse française avait réautorisé les extraits. Victoire par chaos, quasi immédiate. Et il a fallu attendre plus de 6 mois pour qu'ils reviennent à la charge en disant abus de position dominante. Ils ont dû bien triturer les neurones pour en arriver là. Ce à quoi Google a dit, bon, vous n'allez pas me lâcher, j'ai compris. Ils ont négocié, et au lieu d'avoir une décision de justice qui dit qu'il y a un des deux qui avait raison, on se retrouve avec le consensus mou. Google a fait une fondation, il a décidé qu'il allait distribuer quelques milliards à la presse en saupoudrant là où il choisit. Et la presse, au lieu d'être indépendante et de faire du bon travail d'information, c'est juste trouver un nouveau maître et s'est couché devant Google, en plus des gouvernements.
Mais c'est parce que, on ne s'en rend pas vraiment compte ici, dans la mesure où c'est vrai que c'est un excellent moteur de recherche que même beaucoup de libristes utilisent. Il y a des outils de chez Google qui sont juste exceptionnels, vu la finalité qu'il y a derrière, et qui est quand même le néolibéralisme à l'américaine, qui est un rouleau compresseur sans vergogne, sans foi ni loi. Et quand on reste côté utilisateur, utilisatrice, et qu'on voit juste les bénéfices qu'on retire de leurs outils, mais qu'on ne va pas voir que de l'autre côté, c'est juste des outils de business à l'américaine. Et parce qu'il y a le business à la française aussi qui existe, et je me demande s'il n'y avait pas une espèce de clash des civilisations là, à un moment donné. Mais bon, peu importe, ça c'est bien résolu, on ne va pas se perdre dans ces considérations philosophiques. Parce que je me demandais pourquoi tu avais préféré faire une extension pour Firefox plutôt qu'un programme, une appli, un GUI, une app classique.
Alors, j'ai expliqué pourquoi je ne pouvais pas en faire un site web. Et alors, pourquoi j'en ai fait une extension plutôt qu'une application à part entière? Ça, c'est une très bonne question. Et pour ceux qui ont déjà écouté les précédents podcasts, celle-là, elle n'est jamais sortie encore. Merci de la poser. J'ai fait une extension parce que j'avais besoin d'un analyseur de HTML à jour et rapide. Et puis, si possible, le plus rapide et le plus à jour.
Ah donc, comme il est déjà intégré dans un navigateur, tu t'es dit, je ne vais pas réécrire un navigateur, je vais prendre ce qui existe, je vais faire une extension.
Oui, mon idée de départ, c'était quand même d'aller lire les résultats sur les sites web des journaux. Donc, il fallait que je puisse décortiquer le site web des journaux. Ça fait une très belle expression tout à l'heure pour ça. Et Pour aller farfouiller dans les pages des journaux, il me faut un outil capable de transformer le texte d'une page HTML en une structure logicielle sur laquelle je peux, moi, faire des requêtes, aller explorer, pouvoir dire avec un sélecteur CSS, le titre de mon résultat, il est « dentelle balise ». Et cette transformation-là, même un programme qui aurait été sur mesure ou qui aurait été très rapide ou déjà existant comme Beautiful Soup en Python, et ben, il ne serait jamais aussi à jour et aussi rapide que Firefox, qui est juste en train d'inventer les prochaines balises qu'on aura le droit d'utiliser dans le HTML, hein, et qui est depuis qu'il est recodé en Rust, qui est le plus rapide du monde. Et aussi depuis que Google a une position dominante avec son navigateur de recherche à lui. Si vous vous souvenez, en 2007, 2008, allez, même 2000, un peu avant 2006, quand Firefox est sorti, c'était super rapide. Et ça a balancé une gifle monumentale dans Internet Explorer, qui était jusque-là la solution la plus utilisée, parce qu'elle était par défaut installée dans
Windows. Refourguée de force.
Ouais, c'est pour ça qu'on a eu un petit bandeau qui disait « Hey, vous savez, il y a d'autres navigateurs. » Et ça, c'était réservé qu'aux Européens.
Oui, c'est une défaite, une victoire, une défaite pour Microsoft, une victoire pour les utilisateurs et pour nous en Europe. Mais bon, il faut voir que le sens de l'histoire est écrit par le ventre mou. Hein, le niveau de militantisme des gens fait que c'était Internet Explorer le plus utilisé. Bon. Quand Firefox est sorti, c'était tellement plus rapide, tellement plus léger, que Microsoft, même en mettant les bouchées doubles, n'a pas réussi à rattraper son retard technologique sur la question. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont redéveloppé un nouveau moteur le plus rapide qu'ils arrivaient à faire, et ils n'ont pas réussi à récupérer leur part de marché. Ils s'en sont jamais relevés.
Maintenant, ils ont trouvé une solution. La solution, c'est de piquer le moteur de Chrome.
C'est venu très très longtemps après, mais à cette époque, Google, qui avait encore la devise « ne rien faire de mal »,« don't be evil », finançait très allègrement Mozilla, justement pour enquiquiner Microsoft, et puis pour que le moteur de recherche soit, pour que Google soit le moteur de recherche par défaut dans Firefox. Ça avait du sens, il y avait encore de la concurrence sur le marché des deux moteurs de recherche, ça finançait Firefox, tout le monde était très content. Ils avaient du coup des ingénieurs, une bonne équipe et un très bon produit. Et puis au bout d'un moment, étonnamment, ils se sont dit, oh bah, on va pourquoi pas continuer à soutenir, allez, mais on va faire notre propre moteur de recherche à côté, notre propre navigateur à côté. Et là, c'était un peu comme scier la planche sur laquelle Firefox était assis. Alourdi des liens, des masses et des mallettes de billets de l'autre côté de la planche, hein, pour être sûr qu'elle craque vite. Mais ils sont repartis de rien, avec un décalage de 5-10 ans sur Firefox. Firefox, entre-temps, était devenu plus gros, plus complet, moins rapide, et puis sans concurrence, il n'y a pas tellement de motivation à faire quelque chose de plus rapide ou de prendre des risques. Et donc, ils n'ont pas eu de mal, en refaisant quelque chose, en partant de rien, eux, à faire quelque chose de plus rapide. Bon, ils ont débauché les ingénieurs de chez Mozilla pour faire la même chose ailleurs. Alors, il ne faut pas s'attendre à des pratiques jolies comme plus jolies que ça, mais c'est du coup leur produit, Chrome, qui est devenu plus rapide. Chrome, à coup de grandes pubs dans tous les métros de Paris, par exemple, moi je m'en souviens, ils ont acheté les pubs, tous les panneaux, de toute une ligne publicitaire. On ne pouvait pas montrer de manière plus évidente l'écrasante force de cette campagne de publicité. Étant plus rapide et annoncé au monde entier, Chrome est devenu majoritaire. Et c'est aujourd'hui le navigateur le plus utilisé. Entre autres aussi parce que c'est celui qui est par défaut dans Android, mais bon, on y reviendra. Face à ça, il a bien fallu que Firefox se réinvente, et ils ont à peu près tout recodé à partir de rien, à part avec un nouveau langage de programmation qui était le plus rapide existant. Et qui, rendez-vous compte, on n'avait rien fait de plus rapide que le C, et donc on n'avait rien inventé de plus intéressant depuis 70 ans en termes de langage de programmation. Fait-on l'avènement du Rust. Et donc, en recodant tout Firefox en Rust, ça y est, Firefox est plus rapide que Chrome. pour deux raisons. Parce qu'ils ont fait le taf de faire quelque chose de plus rapide chez Mozilla, et pour la même raison que Microsoft à l'époque s'est laissé dépasser, puisqu'ils avaient une position dominante, Google a arrêté d'investir dans Chrome. Donc Chrome dépérit lentement, en attendant que quelque chose le menace vraiment. Voilà pour cette histoire des navigateurs web, et donc voilà pourquoi je suis moins accroché à un navigateur web, parce que ça pète du feu ce truc-là. C'est un analyseur de HTML codé en Rust, le plus rapide du monde, à jour à chaque fois. J'avais juste à rajouter, saupoudrer un peu de JavaScript par-dessus, parce que l'extension, elle ne fait pas des centaines de milliers de lignes de code. Hein. Ça tient dans 2000 lignes, tout ce que j'ai fait. Je prends vos mots-clés, je boucle pour interroger tous les journaux, je récupère et je trie par ordre chronologique. L'avantage, c'est que si vous faites deux fois la même recherche, vous aurez deux fois les mêmes résultats. Mais ça, vous n'avez pas ça chez Google. Quand on est un journaliste et qu'on fait des recherches sur plusieurs sujets, on n'aime pas du tout se faire enfermer dans sa bulle Google.
Mais
parce
oui,
que bah, Google, pour personnaliser votre expérience...
C'est ça que je me demandais, si Google... avec Google News à l'époque, vous bossiez à la Quadrature, et est-ce que vous étiez bien sûr de recevoir toutes les nouvelles les plus objectives, possibles, imaginables, sachant leur principe de filtrage et de bulle
On n'était pas sûr, et puis personne ne peut l'être. Google, il vous dit « je vous envoie tout ce qui existe », puis vous êtes bien prié de le croire, parce que vous ne pouvez pas vérifier dans quoi ils ont cherché. Mmh. Alors qu'avec MetaPress, la liste des 285 journaux qui grossit, à laquelle vous pouvez contribuer, que je vais continuer à étoffer, bah vous l'avez. Vous savez dans quels journaux j'ai cherché, vous savez lesquels manquent. Attends, vous êtes sûr de ne pas passer à côté de quelque chose, parce que hein, y a pas le trou noir de Google au milieu qui vous dit « hey, c'est bon, j'ai fait le taf, rassure-toi ». Avec mon outil, vous avez la liste. Si vous voulez chercher précisément à l'unité dans trois journaux précis, bah vous faites recherche avancée, vous dites sélectionnez les sources, et vous avez accès à la liste complète des sources dans laquelle vous pouvez sélectionner ce qui vous intéresse. MetaPress, c'est libre, c'est gratuit, c'est rapide, ça vous fait des résultats proches de ce que fait Google Actualité, et puis bah ça vous redonne le contrôle de vos sources d'informations. Ça devrait quand même faire sonner deux, trois petites cloches d'intérêt
ouais,
chez les auditeurs qui m'écoutent faire des grands couloirs où je vous raconte l'histoire de l'informatique. Bon,
ça ne sent pas encore le Magnolia jusqu'ici. Hein. Ça, il faut faire quelque chose.
Eh bien, alors, on a parlé de beaucoup, beaucoup de choses. Je vous propose de faire une petite pause pour un peu respirer.
Bonne idée.
Laisser reposer les esprits les uns et les autres. Pour repartir de meilleur.
Faut juste ouvrir les oreilles, sortir un peu, pas trop dépendre sur l'information qu'on voit dans les maisons de disques ou les magasins de disques.
Radio Campus, la radio qui écoute ce qu'elle programme.
Ben, question technique.
Bonjour, nous sommes en live.
Voilà, bonjour.
Bonsoir.
Du coup, nous écoutions Awake Africa de Ed Johnson.
Et nous sommes toujours en compagnie de Slitar, du fin fond de son Magnolia des Deux-Sèvres, et qui est développeur d'une extension pour Firefox, le super navigateur libre, libérophile, et qui permet d'aller explorer la presse dans 285 journaux.
Metapresse.es.
Yo. Ouais.
Oui. Et il y a encore plein d'autres.
Alors, et 200, ce n'est qu'un début. On en mettra 20 000 dans... au fur et à mesure.
Mm-hmm. Et. Waouh, ok. Mais donc, quand tu as réussi à mettre au point cette super extension pour la quadrature, j'imagine que tu as été porté en héros. Tu as libéré de temps de travail énormément de chers camarades. Vous pouviez reprendre.
Je me suis porté en héros parce que je faisais le boulot. Et donc, j'ai suivi un précepte d'ailleurs de start-upper américain qui dit gratter là où ça vous démange. Et donc, j'ai fait l'outil sur mesure pour répondre à mon besoin. Mmh. Cet outil, il m'économiserait plus de 80% du boulot que je faisais à la quadrature.
Mmh. Okay.
Parce que j'ouvre l'onglet, je tape le nom de l'association, je clique sur le bouton de recherche. Étonnamment, et ça m'a surpris moi-même, je m'attendais à ce que soit lent un méta moteur de recherche. L'image qui vient en tête, c'est Neo dans Matrix, la tête tankée dans le clavier qui se relève difficilement avec les touches partout imprimées sur le visage, parce qu'il s'est endormi tellement le méta moteur de recherche met du temps à lui apporter des réponses. Eh bien, étonnamment, 200 sources, là, ça se fait en 20 secondes, même avec une ligne ADSL normale, avec de la fibre optique, j'ai hâte de voir ce que ça va pouvoir donner, d'ici 2025, dans les deux Sèvres, peut-être. Mais donc, ouais, ça marche super vite. Et donc, les résultats arrivent, et ils arrivent très vite. J'affiche dès que j'en affiche, comme ça, en plus, on peut commencer à étudier ça. Et puis, au bout de 20 secondes, ça me dit... Bon, j'ai trouvé 593 résultats qui contiennent quadrature du net dedans. Je te les ai triés par ordre chronologique et moi, je vois tout de suite les trois nouveaux qu'il y a en haut de la liste par rapport à ma recherche que j'avais faite il y a 2 heures ou hier. Et là, on est jusque-là dans le fonctionnement à peu près de Google, mais la magie arrive à ce moment-là. J'ai mes résultats, je les vois, je les veux. Eh bien, je clique sur un bouton pour activer un mode de sélection et des cases à cocher apparaissent devant mes résultats. Et là, je peux aller cocher sur mes 3 derniers résultats, les 3 qui viennent d'arriver, ou faire une sélection un peu plus complète, ou si c'est pour quelqu'un qui m'en a demandé sur un thème particulier, voilà, tu vas cocher les cases qui t'intéressent. Et il y a un bouton tout simple qui s'appelle « Exporter ». Et tu peux exporter les résultats qui t'intéressent dans plusieurs formats, du RSS, du JSON, ce qu'il faut. Et tu te retrouves avec les 3 résultats dans un fichier RSS. À partir de ce moment-là, tu peux déjà les stocker, si tu veux les reprendre plus tard, alors que tu n'as aucune garantie de les retrouver si tu fais à nouveau une recherche dans un autre moteur de recherche qui ne serait pas aussi rationnel. Tu peux les envoyer par mail pour les passer à quelqu'un. Et puis sinon, tu peux aller dans ton site. Si par exemple, c'est hébergé par un WordPress, dans le site, tu as un bouton, un endroit pour dire « Importer un flux RSS ». Et boum! Les 3 résultats les 3 nouveaux résultats qui parlent de ton association sont ajoutés au fil de contenu qui parle de ta revue de presse, de ton site web. C'est comme ça qu'est fait actuellement la revue de presse de la quadrature avec un WordPress qui gère un flux RSS. Et ce flux RSS, c'est la revue de presse de la quadrature.
Ok, ok. Et il y a d'autres assos qui font leur revue de presse avec ton super outil pour Firefox.
Je dis comment ça peut se passer. Actuellement, c'est plus moi qui fais la revue de presse de la quadrature. Et autant je fournis les sources, ou je fournis les résultats à la Quadrature, j'ai 4 recherches par jour et je les envoie, autant les anciens outils sont toujours utilisés. Et donc, la revue de presse continue à passer par les outils de validation et les précédentes, la précédente façon de faire à la Quadrature. Alors, vous dire que d'autres assos l'utilisent, moi, ce dont je me souviens, c'est quand j'étais responsable de la revue de presse, d'autres assos sont venus nous voir en disant on voudrait faire comme vous. Et on leur disait, mais c'est un nuage de logiciels compliqué à installer, c'est tout du sur-mesure, le nom du canal de la Quadrature est en dur dedans. Enfin, on était bien embêtés parce que c'était des amis et qu'on ne pouvait pas les aider. Et alors du coup, quand MetaPress est arrivé en ligne, je suis allé retoquer aux portes en disant « Hey, ça y est, on a le droit d'avoir des amis, venez utiliser l'outil, on peut enfin le partager ». Cet outil, tout le monde pourra l'utiliser. Donc voilà, je sais que ça doit intéresser l'April. Je sais que il y a certains blogs littéraires qui s'appuient dessus. Voilà, bon, moi j'ai des retours à droite, à gauche.
Mm-hmm. Oui, parce que quand on s'était
précisément d'Assos.
Quand on s'était contacté par mail avant pour se donner rendez-vous dans notre émission de source ici, tu étais dépité que, vu les conditions Corona, toute une série de rencontres, genre les Journées du Libre, les rencontres mondiales du logiciel libre et d'autres moments et endroits où.
FOSDEM.
Ah, ouais, voilà, juste, par exemple. Enfin, voilà, comme tous ces moments tombés à l'eau. Tu ne pouvais point en faire la publicité de ta super extension MetaPress.
Et que... Je bosse dessus depuis 2013, j'ai enfin réussi à le faire, j'ai trouvé des financements, je suis quasiment à plein temps, enfin je suis à plein temps dessus maintenant depuis 2019. Il y a beaucoup de gens qui ont contribué dessus, ça marche, c'est prêt. Et 2020, je m'étais dit oui, allez, je fais la tournée des événements, j'ai enfin un truc à dire. Parce que j'aime bien aller aux rencontres mondiales du logiciel libre, apprendre plein de trucs et tout, mais toujours je repars en me disant oh, et ma place là-dedans, il faut que je contribue moi aussi, ça y est. et là poum, tout s'annule. Aucun événement. Là même, normalement je dois aller à Lyon les 3 et 4 avril pour les journées du logiciel libre à Lyon, les JDLL, les journées du libre à Lyon. Ça a été annulé l'an dernier. Cette année-là, ils ont dit qu'ils allaient le faire. Je suis pris, c'est cadré, il y a l'horaire. Et les infos qu'on a en interne, c'est que bah, si c'est reconfiné, c'est reconfiné. Hein. Et on vient de se prendre 16 départements reconfinés là hier. Donc l'optimisme n'est pas trop de mise. Et c'est comme ça que je me suis dit que j'allais plutôt essayer de parler via Internet aux gens. Hein. Et c'est comme ça que je suis tombé sur cette très bonne émission de radio.
Oula, tu jettes beaucoup de fleurs là.
C'est le fuseau horaire.
Du magnolia, les gars, c'est du magnolia. Tiens,
c'est du magnolia. Moi, j'ai tapé Libre Planète pour chercher, tiens, dans la presse française ou francophone. Est-ce que quelqu'un parle de Libre Planète? Parce que ça, c'est ce week-end. Ben, le premier résultat semble sortir depuis d'il y a un an. Et donc, c'est quand même rigolo parce que c'est un événement quand même de la FSF, donc la Free Software Foundation. Ça a lieu ce week-end, c'est en ligne, c'est sur libreplanète.org. Il y a plein de gens qui y vont, il y a même des gens de Framasoft qui y vont aussi. Et ça apparaît dans aucune, en tout cas, des presses francophones, on va dire, qui nourrissent, qui font partie du spectre sur lequel va chercher MetaPress. Qui est quand même, voilà, je pense qu'il y en a plus d'une centaine, il me semble, en français.
Alors, ça permet d'aborder le choix des sources.
C'est ça,
par défaut, on cherche dans la presse et puis que dans la presse.
Ouais.
Est-ce que Libé ou Le Figaro ont parlé de l'événement?
Non, mais c'est ça qui m'intéressait, c'était juste pour voir comment, enfin, tu vois, est-ce qu'un événement libriste, par exemple, est-ce que ça apparaît dans les presses mainstream, on va dire? Eh ben, pas du tout, voilà.
Très rarement, ouais.
C'est
alors,
dingue,
le CCC, quand même, il y a des journalistes de Libé qui viennent au CCC et puis qui en parlent. Alors, tu vois, ils font un événement qui est le plus important d'Europe, qui existe depuis 30 ans, qui
a... Oui, c'est ça.
Qui est... quelque chose qui se dresse comme un phare au milieu de la nuit qui éclaire le reste de la planète, quoi. Mmh. Les rencontres mondiales du logiciel libre, bon, on pouvait déplacer les journalistes, mais ils n'avaient pas l'air d'écrire dessus, quoi.
Ah bon ?
Donc, bah, par rapport à leur rédaction, je veux dire, on leur demande de faire du un peu plus sensationnel. Alors bon, bah là, oui, l'événement de la FSF, est-ce que ça bouge 4000 personnes pendant un week-end complet ? Est-ce que... Je ne sais pas. Mais on n'est pas obligé de chercher que dans la presse avec Métapresse. Une anecdote amusante, c'est que le premier retour que j'ai eu d'un utilisateur de l'outil quelques semaines après l'avoir mis en ligne, c'est un gars qui m'a dit « L'outil a l'air génial, mais moi, je ne veux pas chercher dans la presse, je veux chercher dans la presse scientifique. L'outil serait super pour rassembler différentes collections d'articles scientifiques. » Que ce soit Sci-Hub ou que ce soit Science Direct. Moi, je lui ai dit, pas de souci. J'ai justement mis au point un système avec des étiquettes pour classer les sources. Et donc, on sait si la source, elle est. On lui met l'étiquette quand c'est de la presse. On lui met une étiquette si les résultats sont sous forme de texte ou sous forme de vidéo, parce que j'ai aussi du coup indexé des télé. Et pour ton cas d'usage, il n'y a pas de problème. Mais la presse scientifique, je mettrais une étiquette presse scientifique. Et le gars m'a ajouté une dizaine de sources de presse scientifique. Et j'ai trouvé ça génial, c'est vraiment l'incarnation du logiciel libre. Le premier usage dont j'ai eu vent, c'était de détourner l'outil pour faire autre chose que moi, ce sur quoi je bossais dessus depuis des années. Bon.
Ouais.
Des années en arrière-plan, et puis...
La joie du hack.
Et ben voilà, c'est ça la magie du libre. Ça permet à plein d'autres gens de s'en servir. Et puis... Ça m'a aussi amené à me demander, mais qu'est-ce que je peux ajouter comme autre type de source ? Il a raison, ce gars-là, il y a plein d'autres cas où l'outil fait le taf. Et je suis tombé là récemment sur, par exemple, Démosphère. Démosphère.net, c'est un site francophone qui est un agenda participatif en ligne. L'agenda des luttes, un peu, ça explique où est-ce qu'il y a des manifs. Et il y a 28 instances de Démosphère. Je pense qu'il y en a en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Grèce, beaucoup en France. Et il n'y a aucun moyen de chercher dans toutes les instances de Démosphère d'un coup. Et du coup, bon, j'y ai passé une petite nuit dessus. Mais maintenant, dans les types de sources dans lesquelles on peut chercher, il y a un type de source agenda, que j'ai appelé comme ça. Et quand on cherche là-dedans, on cherche dans les Démosphères.
Ah,
et je ne serais pas étonné pour répondre du coup à la préoccupation de tout à l'heure, que si on cherche dans les agendas et si on cherche dans Démosphère via Métapresse, peut-être qu'on entendra parler de l'événement en question. Peut-être. Je vais bientôt ajouter l'agenda du libre, et là, quand même, si l'événement n'est pas sur l'agenda du libre, c'est qu'il n'existe pas.
Génial, je viens de taper violence policière dans les agendas, il y a plein de résultats.
Ouais.
Ah oui, avec Démosphère, il y en a. Donc voilà, et je suis donc à l'écoute. Dites-moi quels sont les nouveaux cas d'usage que vous voyez, quels sont les nouveaux contenus triés par date qui pourront être interrogés par Métapresse. C'est un outil libre, on peut en faire ce dont il y a besoin.
Mmh. Et donc, toi, tu t'es arrangé pour qu'on puisse...
Il reste que 5 minutes, hein.
Il reste que 5 minutes. Donc, je me suis arrangé pour qu'on puisse, chercher dans...
Oui, que tu puisses d'être autonome, de pouvoir rajouter des sources dans ton extension. Ça veut dire qu'on ne doit pas nécessairement te contacter, que tu reçoives 20 000 mails par jour en disant « Oh monsieur, j'aimerais bien qu'on puisse ajouter Mickey dans les moteurs de recherche de Métapresse. » Donc, une fois
dans les préférences,
quand on a ton extension,
ajoutez-le vous-même.
Voilà.
Bon, et après, s'il y a besoin de quelque chose, quand c'est un journaliste de Reuters qui me dit qu'il a besoin d'un journal en plus, eh ben, je lui fais. Je suis pas un chien.
Et tu étais journaliste avant de tomber dans l'informatique ou tu étais dans l'informatique et puis tu es tombé un peu dans le journalisme ?
Moi, je suis tombé dans l'informatique depuis tout petit.
Tout petit.
J'ai fait que ça. Je suis ingénieur en informatique et j'ai fait que ça.
Et donc, c'est juste...
Mais par contre, du coup, je suis tombé dans la revue de presse de la Quadrature. Ouais. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses à faire.
Extra. Donc, le tout, c'est d'avoir un navigateur qui s'appelle Firefox, peu importe qu'on soit sous ou GNU Linux.
Il y a des gens qui ne sont pas sous GNU Linux.
Et
je suis désolé de te l'annoncer.
Donc, combien de fois on a déjà
si
installé
Firefox,
ton extension?
En vrai, c'est une web extension et donc ça marche sur à peu près tous les navigateurs. Mais ça, je l'écris nulle part.
Oh.
Bon, si ben, vraiment vous avez besoin avec un autre navigateur, c'est une web extension, ça marche.
Écoute, on le coupera au montage de source.
Et alors, la dernière chose que j'ai pas dite, c'est que ça vous protège des trackers publicitaires. Mon moteur de recherche protège la vie privée des utilisateurs. Parce qu'il n'y a plus Google comme intermédiaire entre vous et les journaux, parce que les trackers publicitaires des journaux ne sont pas activés lors d'une recherche. Et pareil pour les trackers des réseaux sociaux. Le bouton Facebook « J'aime » qui vous dit qu'il y a 28 personnes qui ont aimé votre contenu quand vous allez sur un article, et ben, il vous espionne ce bouton.
Oui.
Et avec MetaPress, on ne le charge pas. Plus d'espionnage. Comme en plus, vous pouvez utiliser MetaPress avec le Tor Browser, l'avenir est beau.
Ah ouais, il marche aussi sur Tor Browser. Waouh, cool.
Bon, ben, ça, c'est pas à 19h26 qu'on parle de Tor Browser.
Non.
On se donne rendez-vous un de ces prochains premier ou troisième vendredi et on fera une spéciale Tor Browser en plus de quelques belles recherches. Slitar, merci beaucoup pour
Merci pour votre accueil.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci.
Et courage à toi, toutes mes amitiés à Temagnolia. Et on se reparle à l'occasion, on s'écrit et s'il y a du nouveau sur les tuyaux. Ça va? À bientôt.
À bientôt.
Salut, Slitar.
Eh bien, merci Fredux, Thiers, AGO, Nico,
merci,
d'avoir clôturé cette émission source sur Radio Campus.
Et c'est parti pour what c'est quoi comme chips?
What is sleep?
Ah.
La radio que te da las puras vibras. Venga, venga, venga. Pachanga.